El día de los torneos pasé por la morería y vi una mora lavando al pie de una fuente fría.
Bonsoir, ici Autre Radio, Autre Culture. Nous avons le débat du mois qui est sur le romance espagnol. Alors nous avons la chance de recevoir Cristina Delhume, auteure-interprète. Bonsoir Cristina.
Bonsoir Marion.
Raïm Vidal Sefira, qui est professeur émérite de la Sorbonne. Bonsoir.
Bonsoir.
Paco de la Rosa, qui est écrivain, musicien et professeur. Bonsoir Paco.
Bonsoir Marion.
Et nous avons Claude Costiou, notre habituel débatteur sur Autre Radio, Autre Culture, qui va jouer ce soir le Candide, puisqu'il est comme moi, nous ne sommes pas très spécialisés sur le romance espagnol. Bonsoir Claude.
Bonsoir Marion, bonsoir à tout le monde.
Raïm, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le romance espagnol ?
Oui, je crois qu'il faudrait d'abord dire d'où vient le mot romance. Romance vient de romanique, latin, qui signifie roman, c'est-à-dire les langues dérivées du latin. Voilà. Étant donné que la poésie par excellence en Espagne, qui était en train de se former, était la poésie de huit pieds, eh bien, on a appelé cette poésie de huit pieds également le romance. Mais bien sûr, ça se compose essentiellement de quatre vers, dont les vers pairs sont rimes, plutôt sont en assonance. Ce n'est pas une rime pure, c'est une assonance. Et il y a une théorie, qui est une théorie de Menéndez Pidal, qui était le grand rassembleur de tous les romances d'Espagne, jusqu'au romances judo-espagnol, de ces gens qui avaient quitté la terre d'Espagne, mais qui ont emporté également de vieux témoins de la langue espagnole, y compris les romances. Eh bien, pour Pidal, le romance dérive en fait d'alexandrin, de 16 pieds en quelque sorte, qui se sont brisés en quatre hémistiches, de telle façon que les rimes des alexandrins se retrouvent au vers pair. Voilà. Hein? Et je pourrais donner, par exemple, on va prendre un romanté moderne, puisque c'est allé jusqu'à Lorca. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre, va a Sevilla a ver los toros. Camborios, toros, voilà la sonance, et on a là exactement ce rythme qui se prête d'ailleurs au chant et qui a finalement traversé tous les siècles. On peut dire qu'aujourd'hui encore, pas mal d'Espagnols parle sur ce rythme. Sur ce rythme-là, je crois que notre amie Cristina ira dans ce sens.
Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure à Raïm. En fait, nous parlons en octosyllabes, comme M. Jourdain faisait de la prose, en fait. C'est vraiment le rythme, le rythme français, c'est l'alexandrin. Le rythme castillan, c'est le poème de huit pieds, ou le vers, ou la phrase de huit pieds, le poème octosyllabique. Alors, on parlait de romance espagnole. En fait, le romance ne peut être qu'espagnol. En fait, il y a des traductions. On pourrait parler de ballade dans le reste de l'Europe, mais le romance, en fait, a servi d'abord à parler, comme disait Raïm il y a une minute. Quand on a arrêté de parler latin, on a commencé à parler romance, et on a dit des romances. Donc, c'est le mot qui a servi à dénommer la langue, qui est la langue qui n'est plus latine, et le genre littéraire qui marque vraiment toute la littérature et la poésie espagnole, puisque au départ, le romance était anonyme. Il est né quand la chanson de geste a cessé d'exister, c'est-à-dire à la fin du Moyen-Âge. Et donc, pendant tout le XVe siècle, ça a été des romances anonymes qui avaient la particularité de ne pas être écrites. Donc, c'est la tradition orale dans toute sa splendeur. Et donc, on a pris d'abord les morceaux de la chanson de geste les plus dramatiques, les plus savoureux. Et puis, on a étendu ça à toute la vie. Donc, on a parlé de la mort, de la vie, de la jalousie, de la trahison, de l'honneur, de tout ce qui fait la vie. Et chacun avait la possibilité d'y apporter son grain de sel, puisque le roman, c'était oral. Et on est arrivé comme ça au XVIe siècle, où on a abandonné ce qu'on appelait los romances viejos, c'est-à-dire les vieux romances, et sont apparues les romances nouveaux, qui ont, eux, un auteur, qui sont cultes et qui ont repris toute cette... ce rythme et cette façon de décrire la vie, on arrive comme ça à citer tous les grands auteurs, tous les grands poètes, jusqu'à effectivement Federico García Lorca.
Et ce type de roman se chantait partout en Espagne alors.
Il se chante partout et il se chante de toutes les façons et chaque province y a apporté sa patte. C'est la raison pour laquelle Paco de la Rosa est là ce soir, parce que mis à part ses occupations universitaires, c'est aussi un guitariste et surtout un grand amateur et un grand spécialiste du flamenco. Et ce qui l'intéresse, lui, c'est l'influence du romance sur le flamenco. Il y a un proverbe espagnol qui dit, je le traduis d'emblée, que la personne qui se tient près d'un bon arbre bénéficie d'une bonne ombre. Alors moi, je peux vous dire que j'ai deux sacrés arbres ici à côté de moi qui prodiguent une ombre extraordinaire et qui, en la personne de Jaime Vidal Sefira, qui fut mon professeur à l'Institut hispanique et néanmoins ami, et Paco de la Rosa, qui est un grand spécialiste de toute la littérature et de tout l'art du sud de l'Espagne, du flamenco.
Comment se traduit, parce que là on parle de toujours des racines judéo-espagnoles, comment ça se traduit dans le romance à cette époque-là, enfin au XVe siècle?
Alors celui qui parle toujours des racines judéo-espagnoles, c'est Jaime Vidal. C'est lui qui en parle et pour cause, puisqu'il en est le produit.
Oui.
Alors vas-y, explique-nous.
Non mais il faut dire que de toute façon, lorsque les juifs ont vécu en Espagne ce qu'ont vécu les tenants des trois autres religions. En réalité, ils parlaient tous los españoles y las españas, c'est-à-dire à la fois le castillan, le léonais, les divers parlaient de la péninsule. Et bien sûr, s'ils parlaient, ils drainaient également toute la littérature orale de l'Espagne, c'est-à-dire les proverbes, les contes, etc., et bien sûr aussi les chants, à tel point, justement, il a cet intéressant à dire, Méndez Pidal dit quelque part que c'est grâce à ces juifs émigrés au-delà de 1492 dans tout le bassin méditerranéen, et notamment en Turquie, dont je dérive par mes parents, eh bien, finalement, ces gens ont perpétué un héritage d'Espagne, ce qui intéresse précisément les Espagnols. D'une part, la langue du XVe siècle, et d'autre part également la poésie et les proverbes. La poésie, eh bien, je sais que ma mère chantait des chants judéo-espagnols, et bien sûr, moi, à l'époque, étant gosse, je ne savais pas d'où ça venait, mais finalement, c'est plus tard que j'ai appris que finalement les racines étaient bien espagnoles. Et justement, Pidal dit que grâce à ces juifs, certaines pièces qui avaient disparu de la péninsule ont été retrouvées. Il y a par exemple des romances qui dérivent de, la mythologie, mais disons du cycle du Cid, qui avait disparu de la péninsule et qu'à travers les migrations judéo-espagnoles, tant dans l'Empire ottoman, et par là il faut entendre également les Balkans, que dans le nord du Maroc, eh bien tout ça s'est perpétué. C'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire qu'on ait trouvé également des contes qui correspondent à de vieux contes qui avaient disparu, etc., etc. Voilà ce que je veux dire. Là, je voudrais tout ajouter quelque chose, c'est que le mot romante est bien masculin en espagnol. Mais dès que le mot a été, par une certaine thématique plus ou moins nostalgique, adoptée par la France ou par les Français, c'est devenu un féminin. C'est la romance. Et ce que je voulais dire, c'est que finalement, les judo-espagnols de Turquie d'ailleurs, qui se sont très vite laissés, à partir de la moitié du 19e siècle, laissés franciser, galliciser, eh bien, chez eux, le romance est devenu la romance. Chez nous, ça s'appelle la romanza. Je te donne la parole.
Non, mais je voulais ajouter juste un petit détail pour la petite histoire. Alors, il semblerait que ce serait Victor Hugo qui aurait traduit le romance par la romance. et que c'est lui qui a fait, oui. qui a ouvert
Parce
la brèche.
J'ai lu également,
tu l'as lu, hein, ça, ça, lu ça m'a été dit par mes professeurs, par d'autres professeurs qui ont pour nom Monsieur et Madame Colomère, que je voudrais citer ici.
Ah, Madame Colomère, en effet.
Qui nous avait expliqué ça. Donc c'est Victor Hugo qui nous a induit en erreur, pas en erreur, mais enfin qui a franci, qui a féminisé le mot romance. Mais le romance, j'aime bien, on va dire le romance.
Hein, oui. Ça. Est-ce que ce romance qui a été véhiculé donc par ce peuple un peu migrateur au niveau de la Turquie, au niveau de la Grèce, de la Bosnie, la Bulgarie, on parle également de la Syrie, de la Palestine, est-ce qu'on retrouve ces mêmes chants mais avec des consonances différentes une fois qu'ils se sont imprégnés de la culture du pays, avec la musique ou avec dans les paroles, est-ce que ça change un peu ou est-ce qu'on arrive à retrouver justement pour un chant qui paraît différent, a exactement la même racine.
Ben, on en a un exemple patent, là, tout à l'heure. Vidal va certainement nous chanter deux ou trois petits vers là, du romance que tu m'as, que tu m'as cité tout à l'heure, qui est chanté. Non, celui de la Mora Cautiva, là, qui est chanté.
Oui,
et moi,
oui,
je te chanterai deux, trois petits vers de ma version à moi.
Oui,
comme ça, on va pratiquer la musique vivante,
exemple.
Puisque, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis le maillon de la chaîne de la tradition orale, oui. Donc si je ne peux chanter deux, trois petits vers,
oui, c'est,
on ne va pas pouvoir...
C'est le roman, c'est de la cautiva,
alors,
c'est-à-dire
tu m'en dis,
captive,
tu m'en dis deux, trois petits vers et moi, je enchaîne.
Je le dis en espagnol
non,
ou
tu
je
me le chantes voilà. Comme tu me l'as bon. Chanté tout à l'heure.
Voilà. Una tarde de verano, passé por la moreria.
Y vi un amor alabando al pie de una fuente fría.
Tu vois, j'ai enchaîné exactement,
voilà, exactement
le texte
voilà.
Avec une autre mélodie.
Voilà, exactement.
Mm-hmm. Voilà, alors, c'est un exemple patent.
Parce que chez nous, ce serait la 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 la.
Mais voilà. Tu chantes beaucoup mieux de moi, que tout le monde le sait. Mais
oui,
de toute
non,
façon,
non.
Ce que je voulais dire là, c'est que, ce texte qui est chanté par une dame marocaine, judéo-espagnole
oui,
du Maroc.
Originaire de Tétouan.
Voilà, est exactement le texte que moi je chante donc en chant péninsulaire, voilà. Qui n'est voilà. Jamais sorti de, voilà. De l'Espagne.
Eh bien, cette dame de Tétouan a perpétué ce chant.
Oui.
Voilà. Et bien sûr, il y a des variantes. Il y a des variantes lexicales, surtout. Hein, très souvent, il y a des mots arabes qui s'introduisent dans le texte. En Turquie, c'est des mots turcs qui s'introduisent. De telle façon qu'on peut faire ainsi tout un puzzle de variantes. Et il y a un grand auteur américain qui s'appelle Armistead, qui a étudié en particulier les romances du monde entier et qui, lui, a établi également des éditions étonnantes. Je suis moi-même en rapport avec lui. C'est un homme d'une qualité remarquable. En tant qu'homme et en tant qu'érudit. Et il faut dire aussi que, justement, en Espagne, existe toute cette collection de romances établie en quinzaine de volumes, par là, je ne sais plus aujourd'hui, par Menéndez Pidal et par ses descendants, par ses héritiers. Il y a là un monde considérable. Tout comme, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas les seuls émigrants, ou les seuls migrants. Il y a également les migrants français, ceux du Canada. Le Canada a également perpétué certaines pièces littéraires orales de la France. Et je dis toujours que si par hasard les Canadiens français avaient été juifs, on dirait aujourd'hui qu'ils parlent judéo-français. Voilà.
Donc justement, à ce propos, à propos des Canadiens du tout, mais pendant que tu parlais, et lorsque tu as fait référence à l'arabe, je pensais donc à Pâques, lorsque dans un chant, un type de chant qui est bien andalou, qui est la pétenera, en un moment, on dit dans les paroles, « Où vas-tu, belle juive ?»
Oui.
Si bien habillée et à une heure si tardive, je vais à la recherche de Rebecca qui se trouve à la synagogue. Donc ça m'a toujours, fascinée. Et par là, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de cette influence du romance, que ce soit judéo-espagnol ou arabe, je ne sais, sur le chant andalou. Parce que c'est beaucoup moins patent que dans le romance judéo-espagnol.
Donc, il faudra commencer par dire que dans les flamencos, il y a beaucoup de styles différents. On parle à peu près 80 genres différents, des styles différents, et chacun de ces styles aurait plein de variantes. Par exemple, un de ces styles, c'est très connu en France, le fandango, hein, au moins de nom. Donc, le fandango, déjà, à Huelva uniquement, il a 47 variantes, tu vois. Donc, le flamenco, c'est une musique très, très vaste et qui a existé, qui s'est introduit à divers moments de l'histoire, quoi. Et donc, la petenera, c'est complètement à part des autres chants, hein. Si vous voulez, je parlerai après un peu des origines du chant flamenco, tout ça. Mais la petenera, ça vient d'un village qui s'appelle Paterna de la Ribera, qui était à l'époque de Fernando III el Santo, c'est-à-dire le père d'Alfonso X le Sage, celui qui a fait les cantiques. Ça a été un village où ils ont été confinés les Juifs. Donc déjà, c'est un village où il y avait une grande tradition juive. Ça a été un village qui a fait le rôle, qui faisait dans les villes ce qu'on appelait la juderia, la juiverie. Hein.
Oui, oui, absolument.
Donc, Paterna, c'était l'endroit où il y avait les juifs. Et donc, en effet, il y a un chant flamenco qui s'appelle la petenera, Paterna petenera. Et donc, les textes sont très différents des restes des styles flamenco et les chants, exactement pareil. Les chants, c'est très lyrique. C'est pas tellement rythmique, parce qu'une des caractéristiques de la musique flamenca, c'est son rythme soutenu tout le temps, alors que la petenera est assez libre. Et en effet, il y a ce chant qui dit « Donde vas, bella judía, tan compuesta y a deshora, voy en busca de Rebeco, que está en la sinagoga ¿no? ». Et il y a bien d'autres peteneras qui font référence au monde juif.
Je disais tout à l'heure à Christina que, par exemple, j'avais entendu ce... je crois que c'est le Canterron, donc il faut me corriger. Hein. Al pie de un árbol sin fruto me puse a considerar voilà. Que pocos amigos tiene
que no tiene que dar. Que dar.
Voilà. C'est du romante.
Ça, c'est...
Ce qui veut dire c'est au pied... Pardon, oui. Je fais le traducteur simultané. Oui. J'avais traduit... Enfin, ce que Paco vient de dire en espagnol, c'est exactement le texte que j'avais dit en français avant. Et au pied d'un arbre sans fruit, je me suis mise à penser... Que bien peu d'amis a
celui qui n'a rien à
donner.
Et ça, c'est aussi une petenera.
Oui, voilà.
Donc, il y a deux styles de petenera, la petenera corta, la petenera larga, et ça, tout ça, c'est la petenera, voilà. La petenera corta. Il y en a beaucoup qui parlent des choses comme un pocito, machin, non
enfin, c'est ça, il y a comme une philosophie.
Voilà.
C'est de l'ordre du proverbe.
Tout à fait. Voilà. Nous, on appelle ça plutôt des sentencias.
Sentencias.
Oui, tu vois.
Exactement.
Et c'est la grande différence qu'il y a entre les textes de l'époque ancienne et les textes postérieurs, comme disait Christine très bien tout à l'heure, et ces passages du roman ancien au moderne, où il y a déjà une signature, une personnalité d'un poète, etc. etc. Et là, on voit aujourd'hui les chants flamencos, compris la petenera, dont toutes les thématiques, c'est juste des poèmes, c'est juste des textes, alors qu'avant c'était vraiment des sentencias, c'était des, comme tu disais, c'est
des proverbes.
Des proverbes, tout à fait.
Là, je préfère le mot sentence, c'est mieux que proverbe.
C'est très fort, sentencias. Oui, enfin, c'est absolument. Les mots qu'on emploie là-bas chez les gitans, non ?
Oui, je connais ça parce que je suis inscrit à un forum de words and sentences sur Internet.
Et sentences je dans beaucoup. Le sens de phrase, en fait.
Oui, oui, c'est ça, d'accord. C'est ça. Voilà. Ou des citations, en quelque sorte. Hein, voilà.
C'est-à-dire que quand les chants flamencos, c'est quelque chose de très impressionnant. Pas écouter dans un théâtre, dans un spectacle, mais surtout... comme on a toujours écouté les flamencos, c'est-à-dire dans des petites réunions.
Oui.
Je reviendrai tout à l'heure. Et donc, c'est quelque chose qui faisait à la limite peur. Hein. Mm-hmm. Et donc, quand on chantait quelque chose comme ça, les gens disaient « c'est une sentencia », tu vois, avec un peu de peur.
Oui, c'est ça, avec gravité.
Voilà, c'est comme si on avait dit quelque chose.
Donc, c'est le vrai sens de sentence, en fait.
Voilà,
c'est-à-dire
c'est
quelque c'est chose qui vous tombe dessus comme un couperet, en fait.
Cela étant, si c'est le rythme, je crois que l'essentiel, c'est le rythme de huit pieds. Parce que le problème de la rime n'est pas toujours respecté, de la sonance. Par exemple, nous avons « A la una yo nací, a las dos engrandecí, a las tres tomi amante, a las cuatro me casi ». Voilà. Et ça, je me souviens d'avoir travaillé à l'Institut d'études hispaniques auprès d'un Espagnol qui était appariteur. Il me dit « ¿Qué estás cantando ?» Et lui aussi, il l'avait appris, mais lui, il venait de son Espagne. Et moi, je venais par mes parents de Turquie. Voilà. Et finalement, nous nous rencontrions en un point déterminé, l'Institut d'études hispaniques de Paris, après des siècles de séparation. C'est quelque chose d'étonnant. Mais ce qu'il y a d'étonnant aussi là, c'est que j'ai rencontré des judéo-espagnols qui chantaient ça autrement. Parce que, à la una yo nací, a las dos me engrandecí, il y a une question de baptême là-dedans qui n'est quitte. Eh bien, il y a des personnes qui venaient avec la version suivante, notamment Enrique Saporta Imbeja, un des derniers auteurs de romans judo-espagnols. A la una yo nací, a las dos me baptizaron. Voilà. Et tout à coup, je lui dis, mais Enrique, de qué lo estás cantando de este modo? Je parle juste d'espagnol. Il me dit, porque yo vengo de una familia. Il m'a pas dit converse, il m'a utilisé un autre mot. En tout cas, d'une famille, en fait, marane.
Oui. Hein,
parce que les maranes devaient bien sûr avoir été baptisés. Autrement dit, il y a eu des maranes qui, eux aussi, ont suivi le chemin d'exil, mais qui se sont différenciés des autres judéo-espagnols par ce petit mot, à la sauce me baptisable. Ça me semble extrêmement intéressant. Voilà. Comme quoi, à travers le chant, on peut découvrir quantité d'éléments qui ont une valeur importante du point de vue de l'histoire de l'humanité.
Tout à fait.
Voilà.
Alors, je voulais en revenir, moi, sur le texte que vous aviez écrit sur la chanson judéo-espagnole que j'ai pu trouver donc sur Internet. Et vous faisiez état de ces rabbins qui reprenaient des airs de romance pour citer des textes des chants sacrés. Et ce que je voulais savoir, parce que d'un côté, on aurait donc ces fameux chants sacrés, de l'autre côté, on aurait ces chants profanes avec des les retours de la mariée, presque vous disiez. Et je me posais la question si on se retrouvait pas justement dans un parallèle de ce qui se passait au tout début de ces religions bibliques, où on avait ce même chemin parallèle, devrais-je
dire. Oui, absolument, absolument, parce que il faut s'imaginer les choses. Hein. Les rabbins emmènent leurs ouailles en émigration vers la Turquie ou ailleurs. Comment les retenir si ce n'est que par l'affectivité? L'affectivité la plus grande, c'est surtout le chant, c'est surtout les mélodies qu'ils emportent. Alors comment les retenir dans la synagogue? Eh bien, en adoptant leur mélodie, mais en mettant des mots hébreux dessus. De telle façon que, par exemple, la 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 la, c'est un romance qui finalement a servi à chanter des textes hébreux, de telle façon que la synagogue, il se retrouve, c'est un peu comme les Negro Spirituals, Let My People Go. Finalement, c'est pareil. Les rabbins, les curés, les prêtres, d'une façon générale, ont leur technique à eux pour retenir leurs ouailles. Par conséquent, il n'y a pas de barrière bien nette entre le profane et le sacré, et l'un va vers l'autre. D'ailleurs, c'est comme ça aussi pour les Bibles, puisqu'on a la Vulgata en latin. Si c'est la Vulgata, c'est qu'on l'a vulgarisée à partir du grec ou de l'hébreu, voilà. Il a toujours fallu vulgariser les choses pour pouvoir retenir les peuples au sein au sein des églises, qu'elles soient juives, musulmanes ou autres. Voilà.
C'est ce qui s'était passé au IXe siècle en France, où on demandait, parce que ça paraît bizarre, parce qu'on pense toujours que l'Église était latine, et on s'aperçoit qu'en fait, au IXe siècle en France, on demande aux églises de chaque localité de parler, non pas latin, mais une espèce de franc. De francs local pour que les gens puissent comprendre ce que l'on disait.
Bien sûr, si c'est un texte qui doit être publié au sens étymologique du mot pour tout le public, le public c'est le vulgos finalement. Finalement, on va vulgariser par la langue du pays. Et on peut dire que toutes les traductions du monde sont des vulgarisations des Bibles premières, qu'elles soient en hébreu, en grec et plus tard en latin. Celle de Saint Jérôme, en latin, la Vulgate, est devenue à son tour un texte sacré qui sert de base à d'autres traductions. Et finalement, on a tout ce mouvement permanent de vulgarisation. Ce qu'on a vulgarisé devient sacré, on le revulgarise, ça donne lieu à un nouveau texte sacré qui va se vulgariser. C'est la relativité des choses.
Bien sûr. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Bon, tout à l'heure, on n'a pas quoi commencer à parler du flamenco, mais le flamenco, c'est quelque chose de relativement récent. Déjà, le terme flamenco est récent. Moi, j'aurais voulu savoir... à partir de quand le romance a une influence quelconque sur le chant profond, je suppose, parce que le cantejondo, c'est antérieur. Flamenco, c'est quelque chose qui apparaît vers le 19e siècle, je pense, ou quelque chose comme ça.
Au 18e, exactement.
Ah, ben voilà.
Au 18e. Mais disons que le flamenco est lié à l'histoire des peuples gitans, qu'on pense qu'il vient de l'Inde, du nord de l'Inde, du côté de Rajasthan exactement. C'est-à-dire à l'époque de Tamerlan, je crois que c'était en 1381, quand Tamerlan a envahi le Rajasthan, il y a eu une grande diaspora. Et à ce moment-là, tous ces peuples, parce que Tamerlan, il faisait des pyramides avec des têtes coupées. Donc,
oui,
ça fait...
Conquérant de l'Inde et de la Perse.
Et de la Perse, tout à fait. Donc, les fleuves devenaient rouges, descendent. Donc, les peuples a fui et il a traversé l'Iran et tout ça. Il est arrivé en Europe. Il ne s'est pas éparpillé dans toute l'Europe. Et finalement, il est arrivé en Espagne entre 1415 et 1425, la plus par des gitans. Alors à cette époque-là, c'était la fin de la Reconquête. Les gitans, ils sont rentrés en Espagne tranquillement, sans aucun problème. Et ils sont assistés à la fin d'une époque. Ils sont assistés à la fin de l'Espagne orientale. C'est-à-dire à l'époque où en Espagne cohabitaient bien les juifs, les arabes, les chrétiens, tout le monde. Et ils sont assistés à la dernière époque de cette culture orientale qu'ils sont bien assimilés, parce qu'une des caractéristiques des gitans, c'est l'assimilation de toutes les cultures là où ils sont passés. Donc, ils sont restés en Espagne. Et puis, à partir de 1492, quand les juifs et les arabes ont été expulsés d'Espagne, et que le tribunal de l'Inquisition, qui existait déjà, a été instauré d'une façon comme une police nationale. Et curieusement, les tribunaux de l'Inquisition, c'était pour surveiller les juifs convertis, les arabes, mais curieusement, c'était pas pour les gitans. Hein. Là, on n'a pas compris qu'est-ce qui se passait. Bon, alors plus tard, en 1499, il y a eu tout un tas de lois qui ont commencé à sortir contre les gitans. La première, ça a été faite par Isabelle la catholique à Medina del Campo. Alors, toutes ces lois qui n'ont pas arrêté de sortir à partir de cette époque-là, c'était pour interdire les gitans d'errer sur les chemins. Alors, c'est la chose qu'ils faisaient et qu'ils ont fait pendant des siècles. D'abord, c'était interdit. D'un côté, c'était interdit de s'installer quelque part, et d'un autre côté, c'était interdit d'errer sur les chemins. Donc, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on avait besoin de la main-d'œuvre gratos. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, il fallait construire les bateaux qui allaient en Amérique. Et donc, tous les hommes qui ont été capturés à cette époque-là ont été amenés au Puerto de Santa María et à San Fernando, où on construisait las galeras, les bateaux qui allaient en Amérique. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les familles des hommes qui ont été capturés se sont installées au sud de l'Espagne. Ces familles gitanes, ils représentaient un danger pour les minifundios, les minifundias, c'est-à-dire pour les petits propriétaires terriens, parce qu'évidemment, ils ne pouvaient pas travailler, ils volaient des poules, n'importe quoi, pour pouvoir subsister. Alors, quand ils arrivent au sud de l'Espagne, où il existe les grands latifundias, les territoires les plus grands proportionnellement de l'Europe qui appartenaient à une seule famille, à l'époque où les 98% de la terre appartenaient à quelques familles. Hein. Donc, on voit qu'il y a socialement aucune différence entre les gens du coin, les gens pauvres et les gitans. Aucune différence. Ils sont aussi pauvres les uns que les autres. C'est pour ça que les gitans n'ont pas de problème pour être assimilés dans la population locale. Hein. Et donc, jusqu'à 1784, à l'époque des Lumières, où il y a un roi d'origine française qui règne en Espagne, qui est Charles III, le fils de Philippe Quint, petit-fils de Louis XIV, et il oblige à tous ces gens-là à adopter un nom espagnol. Et à ce moment-là, tous les gitans choisissent un nom espagnol, parce que jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient pas un nom espagnol. Et à partir de ce moment-là, ils commencent à sortir tous ces chants qui étaient interdits. Parce que l'Inquisition, c'était pas uniquement, et toutes ces lois, c'était pas uniquement d'ordre politique ou religieux, c'était aussi culturel. Donc, tous les modes originairement qui venaient des Grèces, comme les modes dorien, phrygien, lydien, mixolydien, tout ça a été, disons, adopté au chant grégorien à l'Église. Il y en a certains qui ont été interdits parce qu'ils trouvaient, l'Église trouvait que c'était, ça suivait pas les règles. Donc même la musique a été corrigée, quoi. Donc, d'un côté, les gitans, ils sont sortis à partir de ces moments-là, toutes ces formes musicales qu'ils ont appris quand ils sont arrivés en Espagne, avant l'Inquisition, un siècle presque avant l'Inquisition. Chants et musique qui avaient été interdits depuis. Et donc, finalement, c'est comme si vous prenez un territoire où on plante de l'opium, par exemple, et tout d'un coup, ça devient interdit, et pendant 3 siècles, on décide de planter des choux. Et un bon jour, on oublie de planter des choux, à nouveau, l'opium recommence à pousser. Donc ça a été un peu le cas des chants orientaux espagnols. Et tous ces chants-là venaient surtout de la première époque de présence arabe en Espagne, c'est-à-dire entre le 8e siècle et le 11e siècle, l'époque omeyyade, qui était culturellement la plus riche, et celle qui a créé une école de chants dirigée par Sidi Abd, qui était un grand chanteur irakien de l'Irak, de l'époque, il ne s'appelait pas Irak, quoi.
Mésopotamie.
Et donc, celui qui a créé une façon de chanter qui s'est perpétuée. Et c'est les gitans qui ont récupéré cette façon de chanter et qui l'ont sorti à partir du 18e siècle. Cette façon de chanter avait la particularité d'être mélismatique. C'est-à-dire, à ce moment-là, il y en avait 3 types de chants. Les chants syllabiques, les chants pneumatiques et les chants mélismatiques. Les chants syllabiques, ça consistait à mettre une note sur chaque syllabe. Mm-hmm. Donc, par exemple, les romans. Les romances, Caminaba el condolinos, mañanita de San Juan. Alors, les chants pneumatiques, ça consistait à mettre 2 ou 3 notes sur chaque syllabe. Et les chants mélismatiques consistaient à mettre tout un tas de notes sur une même syllabe. De telle façon que quand les gitans commencent à chanter, ce qui est à la mode à l'époque en Espagne, les romances, qui étaient octosyllabes et très longs, il chantait à la façon mélismatique. Donc, pour chanter, par exemple, Gerineldo, Gerineldo, mi camarero pulido, il commençait à chanter Gerineldo. Alors, il mettait une demi-heure pour chanter 4 vers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gitans? Ils ont condensé complètement les textes, les romans, et peu à peu, les romans ont devenu des poèmes très courts, des 3-4 vers. Et finalement, ils ont changé la thématique, ils ont commencé à parler d'eux-mêmes et de leur vie. C'est comme ça que les premiers chants flamenco sont hérités directement du roman, mais avec les styles mélismatiques, et on trouve curieusement dans ces romances la mélodie de la petenera dont je parlais tout à l'heure.
Formidable. Hein?
Donc,
à partir de ce moment-là, les premiers chants qui ont suivi et qui ont une personnalité flamenca, c'était l'atona. Ce qu'on appelle l'atona, c'est une déformation du mot tonada. En espagnol, vous savez qu'en Andalousie, on mange toujours la fin des mots. Alors, tonada est devenu tona. Pourquoi? Parce qu'en Espagne, on chantait les chansons Caminaba el condolinos, tout d'un coup comme ça. Alors que eux, les gens qui venaient d'Orient, avaient l'habitude de trouver la note d'abord, d'entonner. Cette façon d'entonner, d'entonner, s'appelait la tonada. C'est pour ça que les premiers chants, on l'appelle tonas. Alors tous les chants qui apparaissent à ce moment-là, ils n'ont pas de rythme, sont a cappella et s'appellent tonas. Peu à peu, la vie misérable des gitans, soumis à des prisons, à des travaux forcés partout, a fait que dans chaque coin, ces tonnages sont chantés d'une façon différente et adopter une personnalité, une thématique différente, mais toujours libre, sans rythme. Et plus tard, il y a d'autres chants qui ont commencé à venir, mais déjà, curieusement, avec un sens rythmique qui était lié à la fois au chant omeyyade initial et à la musique indienne. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est introduit dans le flamenco ce rythme très curieux à 12 tons. Mm-hmm. À 12 tons, qui est ternaire et binaire en même temps. Et presque dans tous les chants flamencos, il y a ces rythmes-là. Évidemment, dans chaque chant, il y a des syncopes, des contretons et des accents placés différemment. Mais pour abréger, disons que ça revient à faire, par exemple, 2 mesures à 3-4 et 3 mesures à 2-4. Ça ferait, par exemple, 1-2-3. Avec l'accent dans les derniers et non pas la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ensuite 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc quand on fait ça rapidement, ça devient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, on commence à mettre des syncopes, des contretemps, et on voit comme tous les styles de flamenco commencent à se concrétiser et chacun adopte une thématique différente. Voilà, c'est très long, mais...
Là, ça ressemblait à un galop, là. Ce que vous venez de faire.
Un galop, oui, si on veut.
Un galop, c'est, oui, c'est 3 temps et 1 temps de suspension.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Mais comme c'est émouvant quand même, le flamenco, parce que rien que de taper 3, oui. 3 coups là, ça fait déjà circuler le sang plus vite dans les veines, vous ne trouvez pas? Ouais. Moi, ça me fait vraiment un effet extraordinaire.
Árboles lloran por lluvias y montañas. Por aires, ansí lloran los mis ojos por ti, querida amante.
Toi, Claude, qu'est-ce que t'en penses en quelques mots?
Bon, quelques questions comme des pousseurs d'étoiles enfin, au milieu des chants et puis des mots sacrés. Dans la tradition judéo-espagnole, je pense, mais en Candide, comme m'a présenté Marion, qui a bien fait tout à l'heure, qu'il y a une différence avec le ladino, que j'aimerais bien, je ne sais pas, en savoir beaucoup plus.
Ah, mais je peux vous dire ça facilement.
Et puis, bon, il y a la chanson de geste aussi, je vais précipiter peut-être un peu la question, la chanson de geste, enfin bon, la mort de Roland, par exemple, à Roncevaux, à travers l'histoire, enfin en France, on a dit d'abord que c'était les Arabes qui avaient tué Roland, et puis la vérité historique serait plutôt que ce soit les Basques qui l'aient tué. Et puis, bon, est-ce que dans le roman, il y a également, enfin, comment dire, une interprétation, enfin, de cette mort de Roland, donc au temps de Charlemagne? Et puis, je pense aussi, on a parlé de l'Orient. Je pense également à tous ces écrivains qui parlent espagnol, et je pense particulièrement à Borges, qui écrivait en espagnol. Et je me demandais l'influence, enfin, comment, du roman sur Borges, parce que pour moi, Borges, c'est la magie des mots, et puis aussi, bon, la transcendance, le grand initié. Enfin, bon, je lisais tout à l'heure l'autre encore avec le rêve dans le rêve, où à chaque fois, à chaque lecture, c'est une énigme. Et est-ce que dans le roman, il y a cette énigme, enfin, de la pensée que vous exprimez, enfin, très bien là, au niveau du langage? Est-ce que ce voyage dans la langue correspond aussi à un mode de pensée?
Ça fait beaucoup de questions. Je crois que je vais d'abord répondre à la question de ladino, la différence entre ladino et le judo-espagnol tout court. En fait, le ladino, ça ne se parle pas. Le ladino, c'est un instrument de communication, comme la langue, comme n'importe quelle langue, mais par une traduction littérale de l'hébreu en espagnol. Parce que là aussi, il faut vulgariser. Les enfants juifs d'Espagne parlaient espagnol, parlaient los españoles y las españas. Par conséquent, les rabbins qui leur enseignaient le livre de la Genèse leur faisaient traduire mot à mot l'hébreu en espagnol, de telle façon qu'on arrivait à un espagnol à syntaxe hébraïque. C'était, par exemple, le premier verset de la Bible, « Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz » en hébreu, ça donnerait en français ce que j'appellerais un judéo-français calque « En commencement créa le Dieu à les cieux et à la terre ». On risque de dire que je parle petit nègre, pardon pour pour les Noirs. Je ne veux pas du tout les attaquer là, mais c'est une expression qui était admise. On dirait aussi charabia, mais à ce moment-là, j'insulte les Arabes. Vous voyez qu'on a finalement une série de mots insultants. Bon, et en réalité, le fait même de traduire ces textes mot à mot a donné lieu à des textes liturgiques. Et je vous donnais un exemple, la fameuse Haggadah de Pessah, le récit de la Pâque juive, donc le récit de la sortie d'Égypte, se faisait en ladine en traduction littérale. Et vous allez m'entendre et vous allez retrouver le rythme. Mon père chantait « Este pan de la frisión que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. » Voilà. Este año aquí, a el año el vinien, en tierra de Israel, hijos forros, cuanto fue demudada la noche, la esta. Et là, on est en texte liturgique avec du ladino, c'est-à-dire la traduction littérale de l'hébreu. Mais étant donné que c'est une langue de prestige, cette langue de la traduction, finalement, la plupart des juifs espagnols, moi pas, disent qu'ils parlent ladino. C'est pas vrai. Ils parlent judaïsme, ils parlent judaïsme de tout court. Et en plus de ça, ils ne savent pas que le mot ladino, dans toute l'hispanité, est une insulte. Ladino, ça signifie rusé. Astucieux.
Aussi. Voilà. Mais ladino, on l'employait aussi, par exemple, en Amérique du Sud, oui, pour tous ces gens-là qui parlaient l'espagnol avec un accent.
Oui, c'est vrai.
Et on dit même que ladino et latino. Ladino, peut-être une déformation de latino.
Mais ça vient de là.
Mais oui,
mais bien sûr.
La musique latino.
Mais ça vient de là parce que je vais vous dire, en fait, quand les Espagnols ont su qu'ils ne parlaient plus latin, en fait, ils continuaient de dire nous parlons latin. Et fabulamus latinus.
Fabulamus latinus.
Ben, finalement, latino, par les lois de la phonétique, est devenu ladino. Et quand un roi musulman envoyait un messager à un roi chrétien dans l'Espagne des Taïfas, dans l'Espagne des petits royaumes, eh bien, les chrétiens se méfiaient du musulman en disant « El moro ladino ». El moro ladino, ça signifiait qu'il comprenait l'espagnol. Ouais. Mais étant donné qu'il comprenait l'espagnol, il risquait de surprendre des conversations qui auraient bien intéressé son roi.
Donc il fallait quelqu'un dérusé, de quelqu'un
qui fallait s'en méfier.
Sans douter, s'en méfier.
Il fallait se méfier de son intelligence. Et qu'est-ce que c'est que l'intelligence négative ? C'est la ruse. Je viens de vous faire une analyse sémantique. Ouais. C'est tout. Ouais. Voilà. C'est ça. Et c'est de là que ça vient. Et justement, moi je dis toujours aux gens, à mes judéos espagnols, qui disent qu'ils parlent ladino, je dis, vous êtes en train de, dans l'âme de l'espagnol, quel qu'il soit, le mot ladino fait nécessairement apparaître les vieux clichés de la ruse, ruse associée à juif, ça y est, tous les vieux clichés de l'antisémitisme vont apparaître. Eh bien, vous êtes des imbéciles parce que vous leur donnez de quoi manger contre vous. C'est tout. Voilà. Et je crois que j'ai raison. Mais finalement, le ladino, c'est la langue liturgique, la langue pédagogique. Mais c'est d'un intérêt considérable parce que la Bible de Ferrare de 1553, qui est en ladino mais en caractère latin, style gothique, est considérée par la Real Academia comme un chef-d'œuvre de la langue espagnole, dont s'est inspirée notamment la fameuse Biblia de Cassiodoro de Reina de 1569, qui s'appelle la Biblia del Oso. Voilà. Ils s'en inspirent parce que ces gens-là ont pu prendre l'hébreu à sa source et traduire très souvent mal du point de vue de la syntaxe, forcément, puisque c'est la syntaxe hébraïque, mais ça a servi également à la langue espagnole. Et je dirais une chose, l'Espagne est le seul pays où il y a eu véritablement coexistence et compénétration des cultures juives et à travers la Bible, s'entend, des cultures juives et chrétiennes. Voilà. Bien sûr, également, la culture musulmane.
La Bible polyglotte.
Voilà. Non, mais c'est très important, et je crois, je dis encore une fois, qu'aujourd'hui l'Espagne, ou l'Espagne d'alors, devrait être un modèle pour la Palestine, pour l'Israël et la Palestine. On retombe sur l'actualité, là.
Et je pense subitement à ce roman de Cervantes qui est tiré des Nouvelles Exemplaires, qui s'appelle Romance de Preciosa, la Reina Margarita. C'est le romance, donc le poème de Preciosa, qui est le prénom de la jeune fille, à la Reine Marguerite. Et dans ce poème, je le dis souvent sur scène, c'est « Salió a misa de parida la mayor reina de Europa ». Ce qui veut dire que la plus grande reine d'Europe est allée à la messe des Parida, qui est la messe des parturientes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette messe des parturientes? En fait, c'est un calque de la tradition hébraïque apposé sur la tradition catholique. Une femme juive qui met au monde un garçon reste impure, je crois, 3 mois. La même femme juive qui met au monde une fille reste impure 6 mois, à la suite de quoi elle redevient pure et elle peut vaquer à ses occupations diverses et variées dans tous les domaines. Et cette messe des parturientes de la reine Marguerite d'Autriche, c'est justement le fait qu'après 3 ou 6 mois, selon le cas, elle va de nouveau à la messe, à une messe qui la purifie. Donc c'est le rite hébraïque qui est calqué, et donc Cervantes s'en empare et nous fait un magnifique romance nuevo, donc un romance nouveau dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire culte, signé.
Il y a interférence permanente.
Et nous sommes vraiment le fruit, quand je dis nous, parce que je me considère comme les juifs de la diaspora espagnole à 300%, puisqu'on m'a fait naître ailleurs, je suis née en dehors de mon lieu, qui est l'Espagne, je vais bientôt y retourner, donc je serai moins excessive à ce moment-là. Donc voilà, nous sommes le fruit de cette interférence permanente, tout le temps.
Oui, et cette chose extraordinaire, parce que tu viens de parler de la parida, mais la parida, la parturiente, bien sûr.
Bien sûr.
Mais le mari de la parida est appelé el parido, en judo-espagnol, ce qui correspond à une intimité énorme du point de vue de la solidarité entre le mari et la femme. C'est la même chose que los mozos en espagnol. Eh bien, on pourrait dire los paridos en quelque sorte. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. Avec le génie de la langue espagnole qui peut, avec un pluriel qui est en fait un duel, deux à la fois, rendre ces solidarités dont on ne tient pas compte dans d'autres langues.
Il y a même un insulte en espagnol, que parido eres. Eres un parido, non?
Oui, mais el parido en espagnol, en judo-espagnol, c'est vraiment le père de l'enfant qui vient de naître.
Oui, tout à fait.
On pourrait instaurer l'insulte, espèce d'accouché, va.
Voilà, exactement.
Non, parce qu'il y a cette habitude aussi de la cubada. Hein? Donc l'enfant naît, puis c'est le père qui les couve.
Hein? Oui, c'est ça.
C'était surtout dans les cultures du Nord.
Voilà, c'est ça. Et on oublie, par exemple, en français, on oublie que parents, c'est finalement la racine de parir. Hein?
Parir.
Los parientes.
Parientes, claro.
L'italien le dit beaucoup mieux, i genitori. Hein?
Genitori.
Voilà, c'est ça. c'est ça l'intérêt des langues aussi, voir combien tout ça est relatif et...
Ce qui concerne Borges, ce que vous disiez tout à l'heure, moi je pense que Borges, il a un style plus syntactique que sémantique. Je crois qu'il a un vocabulaire qu'il a décidé d'employer assez court, mais d'une façon magistrale. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, moi je pense que Borges, je crois qu'il est aussi grand écrivain que génie, parce que, en fin de compte, je crois qu'il a compris ce qu'il faut pour être un grand écrivain, et c'est-à-dire être un grand menteur. Quand on arrive à mentir, hein, et le faire tellement bien que les gens acceptent le mensonge comme la réalité, à ce moment-là, je pense qu'on est un grand écrivain. Je pense que Borges, il arrive parfaitement à le faire.
C'est le maître.
Oui. On ne sait jamais où est la réalité et où est la fiction. Hein.
Pour en revenir aux romances, est-ce que l'on a des traces de partitions musicales très anciennes, où tout est en tradition orale?
Le propre du romance, c'est la tradition orale. C'est vraiment l'essence même du romance, c'est la tradition orale, et dans le texte, et dans la musique. Vraiment. On ne s'est mis à écrire du romance qu'après le XVIe siècle. Et pour ce qui concerne la musique, peut-être pas qu'on a d'autres...
Non, j'allais dire tout simplement tous les noms des styles en flamenco, où déjà les mêmes Andalous, l'Espagnol, ne savent pas d'où vient chaque nom, comme par exemple la soleá, la bulería, el fandango, el tiento, le tango, personne ne sait d'où ça vient, non? Et même les mots flamenco, personne ne se met d'accord. Tu vois, on a dit les choses les plus invraisemblables à propos du flamenco. On dit que ça peut venir des oiseaux, les flamands, los flamencos, ou bien que ça peut venir du mot arabe flamengo, qui veut dire paysan errant. Enfin, on a dit tout un tas de choses incohérentes. Mais à propos des partitions et du mot flamenco, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait nous éclairer. Et c'est qu'à l'époque de Charles Quint, il y avait des chorales qui venaient de Flandre. Et c'était tout un modèle des les chœurs de Charles Quint et tout ça. Et donc là, il existe des partitions. Et par la suite, ces partitions espagnoles où il y avait marqué toutes ces nuances, où il disait par exemple qu'il faut chanter flamenco, à la façon flamenca, c'est-à-dire flamenco, comme les gens de Flandre. Moi, je pense quand même que les noms flamenco, ça doit venir de là. Parce que, mais oui, parce que c'est devenu, si vous voulez, un synonyme de chanter bien. Mm-hmm. Hein? Et je pense que quand les gitans chantaient bien entre eux, c'est très possible qu'ils disent qu'ils chantent comme les flamencos. Ils chantent flamenco, quoi, je pense. Ouais. C'est possible.
Mais moi, j'ai lu que tout de même le flamand des Flandres, a vraiment donné son nom au flamenco parce qu'il paraissait très sain et rosé, le paysan flamand, ce qui a donné son nom également à l'oiseau.
L'oiseau.
Voilà. Et que finalement, ça vient de là.
Mais oui.
Et cela étant, il faut dire aussi qu'il y a pas mal d'influences espagnoles. En Belgique et dans les Flandres, ils ont laissé quelques mots, les Espagnols. Mmh. Quelques mots M-O-T-S et M-A-U-X. Hein,
oui,
les
deux. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Mais, par exemple, en flamand, pour dire le WC, on dit « et privat ».
Le privat,
c'est la privada de jadis.
Tout à fait.
La privada du siècle d'or que nous avons gardée en judéo-espagnol. En judéo-espagnol, la privada, c'est en fait le petit coin.
Le petit coin, l'escuchado. Ouais.
Absolument, l'escuchado. Mais en flamand, c'est ut privat. Moi, ça m'étonnait quand je vivais en Belgique de voir WC et à côté ut privat en flamand. Hein. Et je disais à mon père, est-ce que moi, c'est la ligne, quoi, papa?
Alors, le roman espagnol, on voit qu'il a été véhiculé dans de nombreux pays, qu'il est très très à la mode depuis une trentaine d'années. Et on dit qu'il a été surtout au 19e siècle, le roman a été très très utilisé. Alors pourquoi particulièrement le 19e siècle? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au 19e siècle, il y ait eu une explosion du roman?
Parce que il y a eu tout de même les conséquences des guerres napoléoniennes en Espagne. Je suppose qu'il y a dû y avoir, par contre-coup, un goût pour la langue espagnole et pour le romance, plus Victor Hugo plus tard, etc. Je suppose que c'est ça, parce que le goût pour le romance judo-espagnol, ça c'est plus tardif aussi, hein. Voilà. Aujourd'hui, dans n'importe quoi, que vous alliez à la FNAC ou ailleurs, vous ne trouvez que des romances en judo-espagnol. Et encore, le mot romante est mis à toutes les sauces. C'est plus du romante, hein, il faut dire cancionero dans ce cas-là, tout simplement.
Alors on dit justement qu'il y a deux mondes en fait. Il y a celui qui a été véhiculé d'après des écrits, alors je ne sais plus, d'Isaac Lévy, qui avait sorti 4 volumes entre 59 et 73,
oui.
Et qu'on en est revenu il n'y a pas très longtemps, justement sur ces anciens romances chantées à l'époque de la Renaissance, en fait.
Mais Isaac Lévy, c'est de lui que vous parlez.
Oui.
Oui. Il a fait 4 volumes de romances, de romances, comme il dit, mais à côté de ça, il a fait 10 volumes de chants judo-espagnols, à la fois, comment dire, liturgique et populaire, en donnant chaque fois ses sources. Hein. Il est mort maintenant, et les 10 volumes, je ne les ai plus, ils sont à Washington, puisque j'ai offert ma bibliothèque au musée de la Shoah à Washington. Mais en tout cas, les 10 volumes, je les avais, et c'est un travail remarquable. Voilà. Qui n'est pas peut-être très scientifique, mais qui est, disons, une cueillette qui va servir plus tard aux chercheurs. Voilà.
Moi, je pense que les romances aussi, c'est pas uniquement la forme poétique et musicale, mais tout ce que ça véhicule, quand même. Et puis, je pense que le 19e siècle en Espagne, ça a été particulier parce qu'il y a tous ces grands mythes romantiques qui se sont créés, tous ces écrivains étrangers comme Richard Ford, Lewis, Washington Irving, Lavilliers, Théophile Gautier, Bizet, enfin Mérimée, pardon. Donc, si vous voulez, c'est une époque de romances, et comme dit Vidal, Jaime Vidal, je pense que les guerres napoléoniennes, ils ont pour quelque chose, et aussi parce qu'au 19e siècle, surtout la deuxième moitié du 19e siècle, il y avait une grande partie de tous ces vieux romances qui avaient disparu. Et puis c'est justement quelqu'un de la famille d'Antonio Machado qui les a récupérés, et qui les a réunis. Et grâce à ça, le romance a recommencé à avoir une très grande importance en Espagne. Alors, Antonio Machado, le poète qui venait très souvent à Paris et qui était professeur de français à Soria et tout ça, c'est d'une famille liée à l'institution libre d'enseignement en Espagne, laïque. C'est quelqu'un qui... c'est une famille qui était très liée aux traditions orales, justement. Son père, Antonio Machado Álvarez, qu'on appelait Demófilo, ça a été le premier qui a fait un traité sur le flamenco en 1881. Et grâce à lui, qui ne connaissait absolument rien en flamenco, mais grâce à un gitan qui l'a éclairé, il a laissé des choses magnifiques de cette époque-là, et grâce à lui, on connaît beaucoup de choses. Alors, la mère du père de Mofilo, c'est-à-dire la grand-mère d'Antonio Machado, était une folkloriste, comme on pourrait dire en français, oui, folklorienne, hein, folkloriste, qui a étudié beaucoup...
Ethnologue, enfin, c'est pas pareil. Hein. Folkloriste, ça me semble bien.
Et donc... l'oncle de la grand-mère de Machado, c'est ce personnage-là qui, malheureusement, je n'ai pas dans la tête son nom, mais grâce à lui, le romancero espagnol a pu être rattrapé, alors qu'il y en a beaucoup de romans qui ont disparu complètement. Non? Et donc, Ramon Menéndez Pidal en parle, non, comme quelqu'un de très important.
Flor Nueva de Romances Viejos.
Voilà.
Flor
Nueva de Romances Viejos.
Voilà, exactement. Où il définit très bien les choses, hein, et où il consacre un grand chapitre justement aux romances rudeo espagnoles. Il dit rudeo espagnol, c'est écrit d'ailleurs.
Rudeo, sinon
rudeo espagnol, ouais. C'est ça. Voilà. Mais là, justement, vous parliez d'Itzhak Lévy, voilà un de ces volumes. C'est pas les 10 volumes, hein, ça c'est un des 4 premiers, hein, avec les notations musicales. Hein. Moi, je lis malheureusement pas la musique. Hein. Quand je demande à ma femme, elle peut vaguement donner les mélodies comme ça, mais elle prend son faux piano, là.
Alors, pour les auditeurs, c'est un livre qui s'appelle « Chants judéo-espagnol », recueilli et annoté par Isaac Lévy. Ce sont on a des partitions avec des paroles en espagnol,
en espagnol,
en judéo-espagnol.
Avec les traductions en français.
Avec les traductions en français, et il y a des chants comme « Il se leva le petit comte, nani nani, dans le verger de la reine, haute haute et la lune, on m'appelle brunette ». Et c'est bien sympathique tout ça. En conclusion, nous avons effectivement, parce que Christina Delume est passionnée par le romance espagnol.
Ben, je vais chanter un tout petit bout de romance qui fait partie de ce CD de romance espagnole que j'ai commis il y a quelque temps, qui s'appelle Romances, Deciles y Cantares. Et à la fin, nous terminerons, comme nous terminions toujours à Radio J avec Jaime par El Rey Nimrod, tous les deux, ou tous les trois d'ailleurs. C'est un tout petit bout d'un romance d'Extrémadour, donc, qui est donc presque andalou, mais qui reste quand même très, très marqué. Quand même, il est à la charnière, j'aime bien, parce que c'est un style un peu hybride, un peu comme je suis, moi, comme on avait longuement parlé de toutes ces questions. Nous sommes tous.
Dicen que el olivito es mala leña. Dicen que el olivito es mala leña. Bien hay aquella casa que olivo quema. El olivero, el pajarito en el mes de enero. Triste y lloroso, sin compañero. Porque en la jaula está prisionero. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vio luz santa en la judería que había de nacer. Abraham vino, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham vino, padre querido, padre bendito, luz de Israël.
C'est magnifique. On n'a pas répété, mais c'est quand même
c'est
parfait.
Très, très, très beau. Je vous donnerai sur le site de 6e Paris Jazz. Sur le site de 6e Paris Jazz, je vais vous donner donc les références du CD de Christina Delume avec la pochette pour que vous reconnaissiez tout de suite. Il est distribué partout ?
Oui, oui.
Voilà.
Bah, je peux citer un... bah, oui. C'est justement un disque qui s'appelle Ladino Latino de Liat Cohen et Ricardo Moyano. Et c'est sur la musique juive, la musique latine, hein, espagnole, Amérique du Sud et tout ça. Et ça s'appelle, c'est un très beau disque de guitare. Ça s'appelle Ladino Latino.
Voilà, que l'on retrouve aussi partout.
Oui.
Bon, moi, j'ai préfacé quantité de disques juifs espagnols, dont celui d'Henrietta Zen, la Rosa Inflorese de Belgique, je ne sais pas, il y a au moins une dizaine de chanteurs ou cantatrices, je ne sais pas si on s'appelle, ou de chanteuses, mais je ne me souviens pas des titres à l'instant. Hein. On trouve tout ça chez les bons disquaires, disons.
Chez voilà, les bons disquaires. Pour ne pas... Je vous donne les références donc, sur 6e Paris Jazz. Ici, c'était Autre Radio, Autre Culture. Je vous remercie tous d'être venus. Ça a été passionnant. Et puis, j'espère qu'on va se retrouver bientôt.
Avec grand plaisir, Marion.
Merci. Merci. Et bonsoir. Au revoir.
Au revoir.